Bonjour et bienvenue à Europe & Roll sur Radio Fadjet pour une émission spéciale OTAN. Sur le plateau, Marine avec moi. Bonjour Marine.
Bonjour Anne-Béatrice.
Gaëlle pour le Flash Info. Bonjour Gaëlle.
Bonjour à tous.
Et Patrick, notre rédacteur en chef. À l'occasion de cette spéciale OTAN, nous avons un invité spécial, Monsieur Kem. Bonjour Monsieur Kem.
Bonjour.
Alors vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Défense Nationale.
C'est cela.
Et professeur à Sciences Po.
Enseignant, m'a-t-on dit, parce que professeur, c'est un statut particulier, donc je ne suis qu'enseignant invité.
D'accord. Un expert à l'OTAN.
Et je connais bien l'OTAN, effectivement, parce que je travaille sur le sujet depuis quelques années, effectivement.
Vous nous en direz un peu plus après le Flash Info de Gaëlle.
C'est parti pour 3 minutes d'info. Au programme des news ce week-end, le sommet européen de Bruxelles, les élections présidentielles en Macédoine et en Slovaquie. Le sommet européen est l'événement majeur de cette semaine et a monopolisé l'actualité européenne. Il s'est tenu à Bruxelles jeudi et vendredi et a réuni les 27 États membres de l'Union européenne qui ont élaboré une stratégie commune en vue du G20, le G20 qui se tiendra à Londres le 2 avril prochain. Afficher une unité sur l'épineux dossier de la crise économique était indispensable, c'est chose faite à présent. Alors que les chiffres économiques sont de plus en plus alarmants, les 27 se sont accordés à ne pas procéder à un nouveau plan de relance et refusent notamment une relance par la consommation. Le deuxième point sur lequel les États membres se sont mis d'accord concerne la modernisation du marché économique. Le maître mot est « régulation ». Les Européens veulent des règles plus strictes en matière de régulation des marchés financiers et des paradis fiscaux et ils ambitionnent, je cite, « jouer un rôle majeur dans la modernisation des institutions européennes » au dire du Premier ministre tchèque Mirek Topolánek. L'argent est le nerf de la guerre, c'est bien connu. Et les chefs européens ont décidé de doubler la contribution destinée aux pays de l'UE, rencontrant le plus de difficultés en cette période de crise, et cette contribution s'élèvera à 50 milliards d'euros. Enfin, l'Union européenne veut un renforcement du Fonds monétaire international et a pour cela montré l'exemple, puisqu'il a été annoncé que sa participation au FMI sera augmentée de 75 milliards d'euros, ceci étant destiné à aider les pays les plus touchés par la crise, notamment les pays sous-développés. C'est un signe fort de l'Union européenne en vue du G20. C'est un week-end électoral pour la Macédoine et la Slovaquie qui vont appeler leurs citoyens aux urnes pour élire un nouveau président. Le prochain président slovaque pourrait bien être une présidente puisque pour la première fois une femme figure dans les deux favoris et c'est un progrès pour ce pays conservateur dans lequel le rôle politique des femmes reste très limité. Iveta Radičová, la candidate, n'aura pas la chose facile car elle est opposée au président sortant Ivan Gasparovic, largement favori et crédité de 50% d'intention de vote dans les sondages. Il pourrait bien être élu dès le premier tour. En Macédoine, les élections présidentielles et municipales de ce week-end sont un véritable test pour l'avenir européen de ce pays. L'année dernière, les élections législatives ont laissé un goût amer, frappé par des violences et des affrontements entre Albanais et Macédoniens, ayant causé la mort d'une personne et la blessure de plusieurs autres. C'est le moment de vérité pour les Macédoniens qui ont obtenu le statut de candidat à l'UE en 2005. Ils veulent à présent poursuivre les négociations d'adhésion. Pour cela, il faudra respecter les critères de l'UE, à savoir la tenue d'élections libres et équitables. Et cela doit déjà être valable pour ce week-end.
Merci Gaëlle pour les news. On retourne tout de suite à notre sujet, l'OTAN. Alors, Monsieur Kempf, en tant que spécialiste de l'OTAN, commencez d'abord, en trois petites minutes, par décrire l'OTAN pour les nuls.
L'OTAN, c'est d'abord quelque chose qui est différent de l'Alliance Atlantique. Les deux mots ont leur importance. L'Alliance Atlantique, dans la considération traditionnelle, est une organisation internationale, politique, de niveau politique, avec des ambassadeurs. C'est de l'intergouvernemental. Quand l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est un outil intégré, militaire, spécialisé. Et donc, quand on parle d'organisation intégrée, au sens propre, il faut parler d'OTAN. Le débat est important actuellement parce que la France, qui était membre fondateur de l'Alliance Atlantique en 1949, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Benelux par exemple, n'a jamais quitté l'OTAN, n'a jamais quitté l'Alliance. En revanche, Elle a quitté l'organisation du traité, construite dans les années 50. Elle a quitté cette organisation en 1966, sous la houlette du général de Gaulle, sur la décision du général de Gaulle.
Certains disent que la France n'a jamais quitté l'OTAN, d'autres sont persuadés du contraire. Quelle est votre position là-dessus ?
Factuellement, la France a quitté l'OTAN en 1966, elle n'a jamais quitté l'Alliance Atlantique. Ce qu'on observe en revanche depuis l'après-guerre froide, depuis 1990 pour être très simple, c'est un double rapprochement. D'une part un rapprochement de la France vers l'OTAN à cause des opérations, et d'autre part, d'une certaine façon, dans un mouvement qui est moins sensible et moins observé, mais qui n'en est pas moins réel, un mouvement de l'OTAN vers la France, puisqu'on observe une sorte de désintégration de cet OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'autrefois, vous aviez, dans le cadre de l'affrontement bipolaire entre l'Est et l'Ouest, des forces qui étaient mises à disposition de façon permanente et en nombre très important de part et d'autre de la frontière interallemande, pour schématiser, et qu'à partir du moment de l'après-guerre froide, chaque pays a retiré peu à peu ses forces mises à disposition de façon permanente et a repris d'une certaine façon son autonomie d'emploi, et a d'une certaine façon rejoint une certaine attitude plus ou moins française. Dans le même temps, la France, à cause des opérations alliées, des opérations de l'OTAN, à laquelle elle a toujours participé, la France a rejoint, je dirais, l'emploi commun de l'OTAN qu'ont fait tous les alliés. Et donc on observe un double rapprochement, il y avait une sorte de mouvement d'asymptote, des droites qui se rapprochent sans jamais se toucher, et la décision de cette année, la décision d'il y a 10 jours, annoncée par le président de la République, fait en fait que les asymptotes se rejoignent.
Mais cette décision de réintégrer l'OTAN, finalement, n'est-ce pas une façon d'officialiser une position qui était déjà officieuse depuis quelques années ?
Oui, c'est une décision pragmatique, c'est empreint de réalisme, c'est constater que dans les faits, dans la réalité du travail de l'OTAN, c'est-à-dire toutes ces opérations, la France joue le même rôle que les autres, qu'elle est un contributeur important, un financier important, et que surtout ce rôle n'est pas différent de celui des autres, c'est-à-dire que l'exception française dont on se prévalait tout au cours des années passées, dans les faits, dans la réalité, elle n'existe plus vraiment. Donc c'est du réalisme, c'est d'abord du réalisme, c'est comme ça qu'il faut analyser cette décision, même si bien évidemment cette décision concrète, pragmatique, a une dimension politique qui, elle, fait énormément débat.
Alors Lionel Jospin, dans le Nouvel Observateur, le 2 mars 2009, disait « Pourquoi, quand nos alliés nous acceptent originaux, vouloir nous banaliser ?» Quels sont vos commentaires là-dessus ?
Parce que la vraie question est celle de l'originalité. Est-ce qu'on a besoin d'une visibilité organique, d'un marquant institutionnel, organisationnel, pour avoir de l'originalité ou pas ? Le vrai débat, il est là. Il y a une vraie question sur est-ce que la France continue à avoir un discours original, une voix particulière dans les affaires du monde ? Oui ou non ? Est-ce qu'elle a la volonté de porter ce diagnostic et de l'exprimer dans les affaires du monde ? Oui ou non ? Une fois qu'on a cette volonté et qu'on a cette originalité, est-ce qu'on a réellement besoin d'un dispositif institutionnel adapté ou pas ? Et c'est ce que l'on pourrait éventuellement répondre à M. Jospin. L'absence de la France de l'OTAN marquait effectivement son exception française dans les affaires du monde, mais est-ce que c'est à cause de cette exception que la France a été réellement originale sur toutes les années passées ? A l'inverse, et d'une certaine façon, M. Jospin pose un vrai problème, c'est à partir du moment où on est comme les autres, est-ce qu'on aura toujours un, l'originalité, et deux, le courage de porter cette originalité dans la scène internationale. Ça, c'est un pari sur l'avenir.
Alors, merci pour vos réponses. Nous enchaînons avec un interlude musical. La chanson « The Last of the English Roses » par Pete Doherty, qui sort cette semaine son premier album solo « Graced Wastelands ».
In your mother's old green scarf with your famous auntie Arthur's trousers on. You were slapped by that slapper. Now we all laugh. She laughed the loudest only 93. Catch on the bee's knees off the beat. Cheeky you'd say. We all fell around. Rolling. So she is safe. We all fell apart. Rolling around the playground in the 94. We all sang, skipping and dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together and all the girls together.
Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Et on continue sur le thème de l'OTAN. Alors j'ai une petite question à vous poser, Monsieur Kempf. La guerre froide est terminée depuis 20 ans. Est-ce que maintenant on a encore besoin de l'OTAN à l'heure actuelle ?
C'est une excellente question. La guerre froide est terminée et l'OTAN s'est adaptée. Elle s'est adaptée comment ? C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était d'abord un outil de dissuasion dans l'équilibre de la terreur. Et l'OTAN participait à cet équilibre de la terreur, puisqu'on envisageait une escalade de la violence, mais cette escalade de la violence devait commencer par un niveau conventionnel. L'OTAN servait à ce niveau conventionnel, et elle servait à l'escalade, puisqu'elle permettait l'engagement nucléaire des forces américaines en Europe. Et donc, grâce à ce rôle dans l'équilibre de la terreur, l'OTAN avait une vraie mission de dissuasion. Ça a fonctionné puisque d'abord il n'y a pas eu de guerre et ensuite d'une certaine façon ça a précipité l'écroulement du système soviétique. Depuis cet écroulement, qu'est-ce qu'on a observé ? Eh bien on a observé que l'OTAN est devenue une organisation d'emploi. C'est-à-dire que tout son appareil de dissuasion a été plus ou moins démantelé. C'est l'allusion que je faisais au système des troupes permanentes qui ont été retirées. Il faut savoir que les Américains avaient 300 000 soldats en Europe en 1990. 5 ans plus tard, il y avait moins de 100 000. Mais c'est devenu une organisation d'emploi pour résoudre tout un tas de problèmes, et d'abord des problèmes européens qui ont d'abord tourné autour des Balkans. Première mission principale de l'OTAN en 1995 avec la Bosnie, l'IFOR puis l'ASFOR, deuxième mission en 1999 avec le Kosovo. Simultanément, l'OTAN, l'Alliance, pour être plus exact, l'Alliance Atlantique a été un des instruments qui a permis de réunifier le continent. Il y a eu bien sûr une réunification inter-allemande, mais il y a surtout une réunification du continent avec l'intégration des anciens pays d'Europe centrale et orientale dans l'Alliance Atlantique, simultanément ou quasi simultanément avec une intégration dans l'Union européenne. Donc l'Alliance et l'OTAN ont été des outils pour le continent européen. Ces outils continuent à être utilisés aujourd'hui de deux façons. D'une première façon, avec une opération qui est un peu ignorée, qui s'appelle Active Endeavour, et qui est une force maritime dans la Méditerranée, antiterroriste, qui date depuis 2001. Et une deuxième opération qui est la FIAS, FIAS qui a été initiée en 2001 sous les auspices des Nations Unies et qui a été reprise par l'OTAN, ce qui est oublié, en 2003 seulement. Mais la FIAS est d'abord une mission sous couvert des Nations Unies, même si c'est devenu une mission opérée par l'OTAN. Là encore, l'OTAN est pleinement investie en Afghanistan dans cette mission. Qui consiste à quoi ? Qui consiste à participer au rétablissement d'un État de droit et d'un État non terroriste et surtout non radical, et d'un État dans une zone qui est un des producteurs de drogue les plus importants au monde. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est à l'OTAN d'y aller ou est-ce que ça n'est pas à l'OTAN d'y aller ? Ce qu'on constate, c'est que la FIAS est un besoin des Nations Unies, que pendant 2 ans, on a fait sans l'OTAN et qu'on a appelé l'OTAN parce qu'on ne voyait pas très bien qui d'autre mettre à cet endroit. Donc l'OTAN est un outil, s'il n'existait pas, est-ce qu'on l'aurait inventé ? Je n'en sais rien, mais on l'avait en 1990 et tout le monde, américain comme européen, était bien content de l'avoir pour l'adapter, le renouveler et le rendre disponible pour des actions actuelles.
On a vu que l'OTAN intervenait sur un plan européen, mais depuis quelques années, l'Europe, par l'Union européenne, développe sa propre politique de défense. Est-ce qu'on ne risque pas à long terme de voir apparaître une certaine concurrence entre la PESD d'une part et l'OTAN qui continue d'affirmer sa position en Europe ?
Oui, tout à fait. L'histoire de l'après-guerre froide est d'abord l'histoire de cette concurrence, c'est-à-dire l'émergence d'un dispositif européen de sécurité et de défense qui correspond d'une part à une volonté d'autonomie politique européenne et d'autre part à l'adaptation aux crises modernes, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de guerres au sens premier, traditionnel, violente et massive et industrielle, et on a de plus en plus des conflits, des insurrections, des actions urbaines, des terroristes, ce qu'on appelle des mouvements irréguliers, des guerres irrégulières. Ce qui fait que l'outil de défense est obligé de s'adapter, et c'est un problème qui est à la fois national et international. Il est obligé de s'adapter, et c'est bien pour ça que cette année, nous avons eu un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, pour essayer justement de coupler les deux notions, pour réagir aux deux difficultés. L'OTAN, d'une certaine façon, comme l'Europe de la défense, permettent de réagir à cette complication des conflits actuels, qui ne sont plus seulement des conflits de violence, mais qui sont aussi des conflits de rétablissement de la paix et de construction de l'État, qui nécessitent des outils militaires, bien sûr, mais pas seulement militaires, des outils de police, des outils de justice, des outils de développement économique, des outils de développement. Et tout l'enjeu actuel consiste justement à savoir qu'est-ce qu'on va utiliser et quel est l'instrument le plus approprié. Et je pense que de ce point de vue-là, plutôt que d'opposer ce que l'on fait traditionnellement l'OTAN et l'Europe de la défense, il faut s'apercevoir que les deux sont utiles, et les deux ont qu'une légitimité, et qu'il faut qu'elle travaille en collaboration. Et d'ailleurs, c'est le sens dans lequel on va, c'est-à-dire non pas celui d'une séparation, comme ça pouvait être encore le cas dans les années 90, mais celui que chacun fait ce qu'il a à faire, d'ailleurs avec grosso modo les mêmes pays, et d'ailleurs grosso modo les mêmes moyens, en tout état de cause pour les moyens militaires.
Alors, on enchaîne avec un peu de musique indirectement liée au thème de l'Europe. Comme il nous a été difficile de trouver de la musique de l'OTAN, on a trouvé des groupes qui venaient des pays membres de l'OTAN. Alors, on va écouter la chanson Gravity du groupe The Whitest Boy Alive. Alors, cette chanson, elle est issue de l'album Rules. Et ce groupe est un groupe de Berlin avec un chanteur de Norvège. On écoute Gravity.
Not written, certainly not shown, but eventually what's meant to be covered up gets known. Mm-hmm.
want to be with her because she's mine.
You're wrong.
You'll lose me as a friend if you cross that line.
So long.
She's the gravity my life circles around.
Europe'n'Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Et maintenant, on enchaîne avec Simon qui va nous parler du futur de la sécurité en Europe, des nouveaux défis et du sommet de l'OTAN qui va se tenir à Strasbourg-Kehl dans peu de jours. On l'écoute.
Alors que dans une dizaine de jours s'ouvrira le 60e sommet de l'OTAN à Strasbourg-Kehl et que la France va bientôt refaire partie de son commandement intégré, la sécurité européenne et transatlantique que symbolise le traité de l'Atlantique Nord en est à une période charnière de son histoire. Comme l'a résumé Jean-François Bureau, secrétaire général adjoint de l'organisation lors d'un discours à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'OTAN n'est pas un objet inerte et elle nécessite de ce fait un réexamen périodique non seulement en fonction du contexte de la sécurité internationale, mais aussi et peut-être surtout de sa propre volonté. Et si l'on considère les points principaux à l'ordre du jour du sommet des 3 et 4 avril 2009, il en va autant d'adaptations liées aux changements géopolitiques que de questionnements internes sur le rôle à long terme de l'Alliance. Pour ce qui est tout d'abord des opérations en cours, l'Afghanistan, le Kosovo et l'intégration euro-atlantique des Balkans sont les thèmes majeurs qui seront discutés. Leur importance dans l'agenda de l'OTAN montre l'aspect fondamental des actions sur le terrain lorsque celles-ci ont trait à la sécurité et à la défense commune. Or, dans un futur proche, le succès de ces opérations sera un gage de crédibilité pour l'Alliance, alors que des voix nationales à l'intérieur de l'OTAN sont de plus en plus dissonantes, notamment sur la possibilité d'un succès en Afghanistan. D'autre part, alors que l'Union européenne a remplacé les forces de l'OTAN au Kosovo et en Bosnie, et alors que les pays des Balkans souhaitent de plus en plus s'orienter vers l'Union européenne, l'OTAN doit démontrer la pertinence pour la sécurité européenne d'une alliance transatlantique conçue pour la guerre froide. Cela passe peut-être par la redéfinition et le recentrement sur les défis communs aux Nord-Américains et aux Européens, à savoir avant tout la lutte contre le terrorisme et les nouvelles menaces. Par ailleurs, le futur rôle qu'entend jouer la Russie dans l'évolution de la sécurité européenne place l'OTAN devant un nouveau défi. Même si les réunions du Conseil OTAN-Russie ont repris quelques mois après le conflit russo-géorgien et la reconnaissance unilatérale de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, et même si la lutte contre la prolifération et le terrorisme semblent des thèmes où le travail commun est possible, les incompréhensions et la menace réciproque restent grandes, et la question de l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine, ainsi que les difficiles relations avec les États-Unis sur le bouclier antimissile, sont un frein qui laisse en suspens l'idée russe de la refonte de la sécurité européenne. Enfin, la meilleure preuve des questionnements de l'OTAN sur son rôle à long terme trouve son expression dans la restructuration qui y est à l'œuvre. L'Alliance évolue, et le cœur de la mission de l'OTAN n'est pas figé ni clairement défini. En 2002, l'organisation géographique des commandements militaires de l'OTAN, héritée de la guerre froide, avait déjà été rénovée. Décidée à Bucarest, la rédaction d'une déclaration sur la sécurité de l'Alliance doit venir compléter cette évolution. Enfin, l'OTAN ne fera pas l'économie d'une réflexion sur son rôle face aux nouvelles menaces, telles que les cyberattaques ou la piraterie, qui dépassent largement son rôle historique de sécurité territoriale, mais qui pose aussi la question de ses ressources, qui n'ont pas augmenté de façon significative malgré les nouvelles adhésions. Dans la prochaine décennie, l'évolution de son rapport avec les autres acteurs de la communauté internationale, au premier rang desquels l'Union européenne et les Nations unies, pourrait largement contribuer à repenser l'action de l'OTAN dans un contexte qui, on peut le penser, est celui d'une adaptation à l'après-guerre froide que l'Alliance n'a pas encore réussi à concrétiser totalement.
Alors, quelles sont vos réactions par rapport à ce papier ?
La première chose importante qui a été dite, c'est les opérations et le débat actuel sur l'Afghanistan. Nous avons un nouveau gouvernement américain sous la direction du président Obama qui est visiblement en train de changer radicalement sa position. On attend d'ailleurs la publication de sa stratégie et il y aura un débat sur que faire en Afghanistan et surtout comment le faire, avec qui et avec quels moyens. Sur le Kosovo, l'Europe n'a pas encore repris la mission du Kosovo, la mission alliée au Kosovo qui s'appelle la KFOR et qui compte encore une quinzaine de milliers d'hommes. On peut s'attendre à ce que les alliés décident au sommet la réduction de l'effectif pour passer à ce qu'on appelle une présence dissuasive. Et que à terme, mais à mon avis c'est pas pour cette année, ce sera plutôt pendant 2 ou 3 ans, que l'Union européenne reprenne cette mission alliée, ainsi qu'elle l'a fait en Bosnie. Voici principalement pour les opérations. Le dernier point qui est très très important, celui-là, c'est celui de la nouvelle architecture de sécurité européenne, qui a besoin à l'évidence d'une refondation à la suite de plusieurs facteurs. Et là sera probablement le point essentiel du sommet de Strasbourg. C'est comment allons-nous reconstruire une architecture de sécurité en Europe. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de reconstruire ça, outre les 3 facteurs, c'est que nous avons un certain nombre d'échéances qui arrivent cette année. La première est le traité START, qui arrive à l'échéance en décembre, qui est un traité de limitation des armements nucléaires américano-russes, bien évidemment, mais qui ne peut pas laisser l'Alliance indifférente. Et le deuxième point est celui du traité des forces conventionnelles en Europe, qui est un traité de maîtrise des armements conventionnels, qui incorporait l'OTAN quand il était signé en 1992, qui a été renouvelé en 1999 et jamais appliqué depuis. Or, ce traité, la Russie s'en est retirée, et on voit bien se dessiner les termes d'un marché global, qui a d'ailleurs été appelé de ses voeux par le président Medvedev cet été, en disant « il faut une grande négociation ». L'OTAN doit prendre part à cette négociation, l'Alliance, soyons plus exacts, l'Alliance Atlantique doit prendre part à cette négociation, et les alliés doivent se prononcer d'abord entre eux, pour savoir ce qu'ils veulent et comment ils veulent y aboutir sur la partie nucléaire, sur la partie de l'armement conventionnel et sur la partie des relations avec la Russie. On a mentionné le Conseil OTAN-Russie qui se tiendra le lendemain du sommet. Ce sera un des points qu'il faudra étudier avec la plus grande attention parce que cela décidera réellement de l'avenir du continent sur les 5 ou 10 prochaines années.
Merci beaucoup, Monsieur Kempf, pour vos réponses à nos questions. Alors c'est fini pour aujourd'hui avec notre émission spéciale OTAN sur Radio Fadjet. La semaine prochaine, quelle émission nous attend ?
Je ne sais pas, bon, ce sera la surprise.
Donc voilà, vous pouvez réécouter cette émission ou nous faire part de vos commentaires sur www.fadjet.net ou www.europeandroll.eu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un agréable dimanche.
Une très bonne semaine.
Avec beaucoup de soleil et de la bonne humeur. Rendez-vous la semaine prochaine, 13h30, sur Fadjet.